Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Il y en a certains qui étaient en congé, il y en a d'autres qui travaillaient, mais chose sûre, si vous venez de sortir de votre caverne, sachez que vous avez raté quelque chose. Un éclipse solaire totale, c'est ce qu'on nous a mentionné pour le secteur de la Beauce. Et nous, ben, c'est une éclipse solaire partielle. Ça fait des semaines et des semaines qu'on entend parler de ça. Donc, finalement, c'est passé. Et maintenant, ben, on peut passer à d'autres choses. Mais c'était un phénomène absolument magnifique à regarder, si vous avez pu le faire. Ce soir, comme à chaque lundi, on a le plaisir de jaser avec Maître Marc Bellemare, qui est là. Bonjour, Maître Bellemare.
Bonjour, ça va bien, toi?
Oui, vous avez passé une belle fin de semaine?
Ben oui, absolument. Puis, j'attendais l'éclipse, mais malheureusement, j'étais devant le tribunal cet après-midi. Mais il y a toujours moyen de voir des replays, comme on dit, là. Et ça a été tellement canné par différents médias que c'est possible de revoir l'éclipse. Moi, je me souviens, en 72, la dernière fois, j'avais 16 ans. Et je me souviens très vaguement d'un oncle qui me disait « regarde pas, tu vas attraper la bébite ». La bébite, ça voulait dire avoir des problèmes aux yeux. À l'époque, c'est pas aussi documenté qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des experts qui nous disent, mais tu sais, attention, pas regarder parce que tu peux attraper des dommages à la rétine, etc. Ouais. Mais je veux dire, 72, là, c'était pas aussi bien documenté, mais on savait qu'il y avait un certain danger à regarder au ciel.
Ouais.
Et comme la prochaine s'en vient, c'est en 2079, ça se
peut-tu? Des années 70, oui.
Il y a quelques chances que je ne sois pas là, alors la rétine est quand même bien préservée. Ouais. La tienne, elle va bien ta rétine?
Elle va très bien. Moi, j'étais supposé d'aller la voir en direct. Je voulais aller à l'Observatoire du Mont Mégantic. Puis la mère de mes gars avait obtenu un contrat de dernière minute, donc je devais m'occuper de mes garçons, bien entendu. Les priorités sont les priorités, fait que j'étais allé chercher mes petits gars à l'école. Je les ai ramenés à la maison le temps que la mère revienne par la suite. Puis là, ben, on s'en vient travailler. Mais oui, je voulais aller à l'Observatoire du Mont Mégantic, qui est un des plus belles observatoires où on peut aller pour observer le ciel. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Yann, t'as raté quelque chose ». Je serai un peu comme vous. Je regarderai les images qui ont été tournées, les magnifiques photos qui ont été faites au sujet de l'éclipse solaire. Mais cela dit, c'est passé. On va faire avec. Puis peut-être que moi, je serai là en 2075, je ne sais pas. C'est 2076, je pense. Ça se peut-tu? Bref.
Ben, dans 2070, en tout cas.
Voilà, peut-être que je serai là, puis j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler aux auditeurs à ce moment-là, si je suis encore à la radio. Bref, de quoi je voulais jaser avec vous aujourd'hui? Ah oui, du temps où vous étiez en politique, là, je ne vais pas faire un jeu de mots, mais des éclipses comme ça, là. Tu sais, il n'y en a pas tous les jours, c'est des phénomènes naturels, mais ça prend un poids média incroyable. Là, ça va être à peu près, aujourd'hui, ça va être à peu près 95% du poids média. C'est le temps pour des politiciens de passer des mauvaises nouvelles?
Ah, peut-être, mais les mauvaises nouvelles, ce n'est pas les politiciens qui les amènent, c'est généralement d'autres personnes, comme des journalistes ou des chroniqueurs ou des animateurs, et incidemment. C'est rare que les politiciens vont amener des mauvaises nouvelles, mais... Écoute, je regarde là depuis une semaine là, que Trudeau nous a rentré 12 milliards de dépenses additionnelles de fonds qu'on n'a pas, évidemment, qui s'en va direct sur la carte de crédit.
Ouais.
Moi, si j'avais 20 ans, là, je serais bien inquiet. Parce que, écoute, c'est pas les sexagénaires de ma gang qui vont nécessairement supporter le poids de la dette à long terme. Mais cette dette-là, il va falloir la rembourser. Une dette, par définition, Yann, là, c'est remboursable. Ça disparaît pas par l'écoulement du temps. Là. Il n'y a pas de magie. Là. Le gouvernement ne peut pas faire faillite puis laver ses dettes. Donc, il y a quelqu'un éventuellement qui va payer pour ça. Et je suis très inquiet de voir comment Justin Trudeau gère les finances publiques. Très, très inquiet. Je te jure, là, je pense que c'est du jamais vu. Et je me souvenais en 2003, moi, j'étais candidat à l'époque, puis... Je sais pas si tu te souviens de Bernard Landry qui avait promis, qui avait un petit peu le même réflexe, parce que souvent, les gouvernements qui sont sur la pente descendante, qui vont de très mauvais sondages, qui cherchent des solutions, qui sont dépensiers, vont promettre des choses et aller chercher des clientèles comme ça qui sont satisfaites d'avoir plus d'argent potentiellement, mais qui ne regardent pas trop le facteur dette. Et je me souviens que le PQ de 2003, c'était un peu ça quand il avait promis, par exemple, de financer des vacances en payant des gens pour prendre des vacances. C'était assez hallucinant et je pense que c'est ce genre de promesse-là qui avait coulé un peu le gouvernement. Et là, je regarde Trudeau avec ses dépenses qui n'ont pas d'allure, là, pour de l'argent qu'on n'a pas. T'sais, si toi et moi, on gère nos budgets familiaux, personnels de cette manière-là, on s'en va à faillite directement. Le gouvernement ne fait pas faillite, lui. Il nous envoie la facture. Mais je trouve qu'il y a une forme de mépris dans l'ensemble de ces promesses-là qui sont lancées comme ça à peu près un an avant l'élection, parce qu'on parle d'une élection à l'été ou à l'automne 2025. Ça sent vraiment la panique puis le désespoir. Puis s'il joue ses dernières cartes, mais je peux pas croire que les Canadiens qui ont déjà des problèmes arrivés vont croire que ces annonces-là vont améliorer leur sort. Parce que peut-être ça va amener à court terme un certain montant d'argent, mais pas nécessairement dans leur poche. On s'entend que entre la promesse de Justin Trudeau puis le chèque qui arrive dans ta poche, il y a toute une différence. Il faut que ça passe par des constructions domiciliaires, il faut que ça passe par des investissements dans le numérique. Alors, il faut que ça passe par des garderies qui passent par les gouvernements provinciaux parce qu'il ne peut pas ouvrir des garderies lui-même. Il y a aussi la question du dédoublement des dépenses, Yannick. Tu sais, on a deux gouvernements, mais là, ils se compétitionnent. Puis je me souviens, dans le temps de Jacques Parizeau, puis là, on revient en 94, quand il avait été élu, il avait fixé, il avait établi à 4 milliards par année le coût des dédoublements. Les dédoublements, c'est qu'on a deux ministères de l'immigration, deux ministères de la Santé, deux ministères de l'Environnement, deux ministères du Travail, deux ministères des Transports. Et ça fait que, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des comités pour se parler, des comités conjoints interministériels. Là, il faut engager du monde pour gérer les comités. Et ça me gosse parce que c'est des impôts de plus à payer, puis des fonctionnaires de plus à payer. Et ça, c'est la méthode Trudeau. Alors, je te le jure, là, moi, je suis vraiment là, découragé de le voir aller. Puis il a l'air à trouver ça le fun. Il a l'air à, ah oui, faut mettre de l'argent puis aider les gens comment? Mais tu sais, tes endettes, ils vont payer plus cher demain ce que tu empruntes pour eux aujourd'hui avec les intérêts puis tout ça. Alors, je comprends pas le calcul. Qu'est-ce que je te dis? Ça, avec la politique, c'est comme ça.
Oui, mais tu sais, je vous entends là, quand vous dites, moi, je pense, votre génération à vous, bon, vous avez eu le temps d'en mettre peut-être un peu de côté. Pour ce qui est des jeunes, pour ce qui est de mes enfants, je me demande comment ils vont évoluer dans un Canada hyper, hyper, hyper endetté. On a eu la chance de vivre des années où le panier de service, tant au Canada qu'au Québec, était bien, bien garni. Mais à un moment donné, le panier de service va rétrécir, puis on n'aura pas le choix de passer par là. Est-ce que ça va passer par les conservateurs, peut-être? On pense que si on suit au sondage, c'est les conservateurs qui vont prendre la place du gouvernement actuel. Conservateurs ont pas mal toujours été un peu plus actifs là, pour ce qui est du contrôle du budget. Stephen Harper a fait une super de belle job, mais de voir qu'il y en a qui croient que Trudeau pourrait rester là encore 4 ans, je veux dire, pensez à vos enfants, les amis, là, t'sais, pensez pas juste à vous autres, pensez à vos enfants, ça n'a pas de bon sens. C'est un fiasco monumental dans lequel on s'en va si ce gars-là est encore au pouvoir pour plusieurs années. Maître Bellemare, je voulais vous parler de quelque chose. Votre ancien parti, le Parti libéral du Québec, à la chefferie. On trouvait pas ça très excitant avec un Denis Coderre, là. Denis Coderre, on l'aime bien, c'est quelqu'un qui semble être bien sympathique, mais il y a pas personne qui tripait sur Denis Coderre ou qui voulait se faire sa pancarte Denis Coderre puis la zigonner dans les airs en disant Denis, Denis, Denis. Il n'y a pas personne qui court après Denis Coderre pour que Denis Coderre soit chef du Parti libéral du Québec. Et dans le Journal de Québec, il y a une chroniqueuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Yasmine Abdel-Fadel qui parle de la course au leadership du Parti libéral qui pourrait être plus excitante que prévu. Puis elle nomme des noms. J'aimerais vous entendre sur les noms qu'elle a mentionnés. Il y en a deux du moins que je suis pas mal persuadé que vous connaissez. Le troisième, j'ai fait mes recherches, comme on dit, puis j'en ai appris peut-être un peu plus sur lui. Mais François-Dominique Champagne, ce serait un gars qui était pendant plusieurs années très proche de l'ancien premier ministre Jean Chrétien, oui, c'est ça, Jean Chrétien,
Ouais.
Très près de la famille Chrétien, le père de François-Philippe Champagne était très ami avec Jean Chrétien. C'est un ministre libéral fédéral qui est perçu par de nombreuses personnes comme le candidat idéal. Vous en pensez quoi?
Ouais, je pense que c'est un gars qui a un très bon talent médiatique, qui communique très bien, maîtrise bien ses dossiers, parfaitement bilingue. D'ailleurs, il y a des recherchistes à un moment donné qui lui ont fait remarquer que même au Québec, il parlait plus anglais que français dans ses points de presse. Alors ça, c'est sûr que pour le Parti libéral, c'est un atout, un chef libéral. Ce que ça leur prend, c'est un francophone pour connecter avec la population francophone, pour aller chercher des comtés francophones. Le Parti libéral qui est perçu à l'heure actuelle comme étant un parti montréalais, anglophone, beaucoup. Les francophones ont déserté les libéraux, ils votent CAQ, puis ils votent PQ. Alors, c'est sûr que s'il arrive un chef francophone charismatique comme Champagne, ça pourrait aider. Et bien, évidemment, ils ont mis la campagne au leadership libéral en 2025. C'est pas un hasard, c'est parce que ça correspond pas mal à l'élection fédérale. Et du côté des libéraux provinciaux, ils doivent regarder beaucoup ce qui se passe sur la scène fédérale du Parti libéral, du Parti de Justin Trudeau, parce que si le Parti de Justin Trudeau continue à être maltraité dans les sondages, il y a certainement des candidats de valeur qui pourraient peut-être être portés à changer de palier de gouvernement. Alors, si Champagne s'aperçoit que les libéraux ne remontent pas à côte, parce que hier, je le regardais à TV quand Justin Trudeau a fait son annonce pour investir dans le numérique 2,4 milliards, sa dernière annonce mirobolante, Champagne est à côté, puis il a l'air bien heureux. Mais ça, c'est la politique. À un moment donné, il va vouloir sauver sa peau aussi. Il va se dire, ben, si j'ai aucune chance d'être élu au fédéral, ou si j'ai une chance d'être élu, mais que mon parti ne le sera pas, se retrouver dans l'opposition, il serait peut-être tenté d'aller avec les libéraux provinciaux, qui seraient très contents de le recevoir. Et moi, je pense que c'est une avenue. Maintenant, il pourrait y avoir d'autres personnes aussi dans la gang des libéraux fédéraux francophones pour être intéressés à venir à Québec. Jean Charest a été sur la scène fédérale avant de venir à Québec. Jean Lesage a été sur la scène fédérale avant de venir à Québec. Ce ne serait pas la première fois que des députés ou des chefs fédéraux ou des députés fédéraux viendraient briguer là, la chefferie d'un parti provincial, du Parti libéral provincial et éventuellement du gouvernement du Québec. Mais je pense que ce serait, oui, un bon point parce que les libéraux flairent l'affaire. Ils sentent, là, avec la CAQ qui descend, qu'il y a une opportunité, comme une espèce de vide politique parce que les fédéralistes purs et durs au Québec, libéraux, ils cherchent une niche, là, puis les libéraux sont pas intéressants. La CAQ déçoit. Alors, c'est sûr que si les libéraux arrivent avec un chef plus charismatique, ils risquent d'aller chercher automatiquement plusieurs comtés dans le Québec francophone.
Donc, il y a François-Philippe Champagne, qui est ministre fédéral, qui serait pressenti à la course à la chefferie du PLQ. L'autre nom qui est mentionné, Carl Blackburn, qui est actuel président-directeur général du Conseil du patronat. Blackburn est avant tout un libéral convaincu, là. Il nous a jamais démontré le contraire. On dit que son expérience confère le profil d'un général en temps de guerre, une caractéristique ô combien nécessaire pour des troupes décimées. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, M. Blackburn?
Oui, mais j'ai siégé avec lui en 2003. Il était député de Roberval. Son père avait été député de Roberval aussi avant. Et Carl était plus jeune à l'époque. Évidemment, on parle de 2003, là, c'est quand même il y a 21 ans. Alors, Carl, oui, je pense qu'il est au Conseil du patronat maintenant. Est-ce qu'il ferait un bon chef? Possiblement. C'est difficile à dire. C'est un gars qui est peut-être pas aussi flamboyant que Champagne, mais qui a quand même des qualités et qui a gardé beaucoup de contacts à travers son implication dans le monde des affaires. C'est un gars du Lac-Saint-Jean. Faudrait voir à l'usage, mais ça fait longtemps que le nom de Blackburn circule et puis, à ma connaissance, j'ai toujours dit non jusqu'à maintenant.
L'autre.
Et puis, ça se pourrait, tu sais, même si Champagne arrive puis qu'il décide d'être candidat puis que c'est intéressant, ça va amener des candidats de valeur. Fait que si Champagne arrive comme candidat à chefferie des libéraux puis que Blackburn l'appuie, il pourrait éventuellement lui aussi être candidat dans une éventuelle élection pour le Parti libéral du Québec. C'est un effet d'entraînement, ça. Quand tu arrives avec un chef, tu sais, Charest, il a amené Yves Séguin, il a amené Tom Mulcair, il a amené Philippe Couillard, il a amené Sam Hamad. Tu sais, un leader qui a des bons sondages amène forcément d'autres candidats. C'est comme ça qu'on forme une équipe. C'est comme ça que Jean Lesage est allé chercher Gérin Lajoie, qui est allé chercher René Lévesque. En 1960, hein, l'équipe du tonnerre.
L'autre nom, le dernier qui est nommé par Yasmine Abdel Fadel, c'est un nom que je ne connaissais pas. Son nom, c'est Charles Milliard, qui est président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On dit qu'il a une personnalité qui est très jeune, qui est rafraîchissante, qui a une expérience professionnelle. C'est un gestionnaire. J'ai vu sur certains sites qu'il avait travaillé pendant plus de 14 ans pour les pharmacies Uniprix. On me dit qu'actuellement, il est vice-président au sein du cabinet de relations publiques nationales. nationale. Très jeune, il doit avoir entre, je vous dirais, 35 et 45 ans. Là, j'y vais de visu. Là, et il me fait penser un peu à Paul Saint-Pierre Plamondon, un gars qui a un bon CV, qui sort de nulle part, qui a un grand sourire, qui veut être, qui serait le gendre qu'on veut pour nos filles. Là. Moi, je ne le connaissais pas, mais Yasmin Abdel-Fadel croit que ce serait une bonne candidature pour le Parti libéral du Québec. Mais on n'a pas nommé l'ancien premier ministre, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. Il doit trouver ça triste un peu. D'après moi, il doit avoir appelé à Yasmin en disant « T'as fait là, m'as oublié! »
Oui, ça va y faire un sujet de réflexion à Compostelle, parce que je pense qu'il est en train de marcher l'énorme et le très long parcours de Compostelle en France, en Espagne. Mais Méliard, moi, je ne le connais pas. Et honnêtement, je suis à la politique puis l'actualité parlementaire d'assez près. Alors, j'ai entendu son nom à quelques reprises, mais je ne pourrais pas l'identifier visuellement. Et ça, bien, c'est sûr que c'est un handicap. Ça ne veut pas dire que, tu sais, parce que les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, tu sais. C'est un parti de pouvoir. C'est un parti corporatif. C'est un parti de pouvoir. Ils veulent être élus. Et l'opposition, ça ne leur fait pas. Alors, les autres, ils vont viser, tu sais, comme quand Jean Charest est arrivé en 98, il n'a pas réussi la première fois, c'est Lucien Bouchard qui l'a battu. En 2003, il a réussi, mais c'était quand même quelqu'un de connu. C'est, en politique, aujourd'hui, on est dans l'instantané avec les réseaux sociaux. Il faut que ça marche tout de suite, on n'a pas de temps à perdre. On a assez attendu. Alors, on veut obtenir l'accès au Parlement le plus rapidement possible. Puis c'est sûr que parmi les trois personnes que tu viens de mentionner, Champagne... serait, à mon avis, le candidat qui pourrait leur assurer peut-être pas un gouvernement à Québec, mais certainement une bonne députation. Et Milliard, ça pourrait faire partie d'une espèce d'équipe économique. Là. Tu vois, je me souviens, dans le temps de Philippe Couillard, il y avait Clément Gignac, il était trois, là. Il y avait Noiseux aussi, qui est au Conseil du Trésor. Il y a toujours une équipe de 3-4 députés qui forment l'équipe économique, comme avec la CAQ actuellement, c'est Fitzgibbon, c'est Girard aux finances. Tu sais, t'as toujours une équipe qui s'occupe des finances, parce que les gens veulent avoir une équipe, un petit groupe parlementaire qui s'occupe de la question des finances, compte tenu que c'est très important pour l'ensemble des électeurs. Alors, les libéraux vont devoir se former une équipe économique aussi, puis ce gars-là, M. Milliard, pourra en faire partie très certainement, mais de le voir à chefferie d'un coup sec, il faudrait qu'il soit pas mal tout seul parce que les deux autres candidats sont plus connus. Puis être connu, ben tu sais, c'est un atout important pour avoir des votes.
Oui, mais c'est parce qu'on pourrait donner comme exemple Paul Saint-Pierre Plamondon, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est une succession de choses qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on a découvert la petite bête politique qu'il est. Tu sais. Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas eu la plus grosse des courses à la chefferie, là, on se rappelle. Puis, dans son comté, il était pas donné comme gagnant jusqu'à ce que la candidate de Québec solidaire ait décidé de voler un genre de feuillet, là, puis elle s'était fait prendre. Elle s'était fait filmer à partir de ce moment-là, elle qui était pressentie pour prendre ce comté-là, bien, elle a perdu tous les votes et Paul Saint-Pierre Plamondon a passé. Puis c'est là qu'on a commencé à découvrir qui était Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais c'était pas un gars qui était très connu, il était pas très populaire. Puis on dirait que, bon, depuis qu'il est rendu à l'Assemblée nationale, les gens l'apprécient de plus en plus. Puis les sondages, bien, sont là pour le mentionner. S'il y avait des sondages demain matin, ce serait le Parti québécois qui passerait.
Exactement. Non, mais c'est sûr, mais quand tu sais, c'est une deuxième chance. Il a été candidat, je crois, quand Jean-François Lisée était élu chef. Je pense qu'il était candidat aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça a été sa deuxième ou peut-être même sa troisième tentative à la chefferie, qui fait qu'il a été élu une fois que Péladeau a tombé, une fois que Jean-François Lisée a tombé. Là, ça a été son tour, mais ça a pris... Il y a eu une espèce de vide, là, tu sais, Pascal Bérubé, il n'y allait pas, il n'y avait personne qui se présentait comme tel à chefferie, Véronique Yvon, il n'y allait pas. Je ne suis pas sûr que ça va être la même figuration au niveau des libéraux, parce que les libéraux, comme je te dis, à moins de vraiment pas avoir le choix, je pense qu'il y a des candidats de valeur qui sont plus nombreux aujourd'hui, même s'ils ne sont pas manifestés, des candidats de valeur à la chefferie libérale qui avaient des candidats de valeur à chefferie péquiste à l'époque. Mais il reste qu'il y a toujours un risque de manquer notre coup à la prochaine élection. Et même si c'est Champagne qui est candidat et qui est élu à la tête du Parti libéral, c'est pas dit qu'il va avoir qu'il va avoir un accès privilégié au Parlement, puis qu'il va avoir un gouvernement libéral la prochaine fois. J'en doute fortement, parce qu'il y a quand même une certaine reconstruction à faire, un parti, un programme à monter, et une équipe à aller chercher, parce que là, les libéraux, on les voit plus, là. Les libéraux influents, là, ils ont quitté le bateau, et ils vont revenir. Est-ce qu'ils vont revenir? Ils ont vieilli pendant ce temps-là, ils ont peut-être développé d'autres défis dans d'autres secteurs que la politique, et puis il faut ramener tout ce monde-là au bercail. Le PQ, ça va assez bien, parce que le retour au bercail s'est amorcé depuis à peu près un an. Les péquistes sont de plus en plus mobilisés. Ils se sont mobilisés encore plus à l'occasion de l'élection dans Jean Talon, où ils sont allés chercher une majorité d'à peu près 10 000 votes, ce qui est quand même beaucoup, alors que les libéraux ont fait patate dans Jean Talon. Alors ça nuit pas à une petite élection partielle qui permet de mobiliser les troupes puis de retrouver les militants, mais les libéraux n'ont pas eu cette chance-là encore aujourd'hui.
On passe du coq à l'âne, Maître Bellemare. On parle d'avis négatifs en ligne. Est-ce que si je donne, je sais pas moi, un avis négatif à un restaurant, est-ce que la compagnie pourrait me poursuivre par la suite?
Oui, bien, c'est les mêmes règles que la diffamation, Yannick. Tu sais, t'as pas le droit de dire « lui, c'est un crotté, puis lui, c'est un pourri », tu sais. Il faut que tu fasses attention aux mots que tu utilises. C'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que la norme est moins exigeante. Alors, faut pas que tu tiennes des propos mensongers. Faut pas que tu traînes des propos grossiers. Faut pas que tu traînes des propos de nature à détruire ou à briser la réputation, la dignité d'une personne ou d'un organisme, même si t'es pas satisfait des services. Alors, faut y aller mollo. Et de toute façon, sur Google, les avis, là, tu sais, si tu as un avis grossier de la part d'une personne, tu peux signaler ça à Google. Et Google peut décider de l'enlever.
Ouais.
Parce qu'ils ont une politique, mais des fois, ils le font pas. Puis
mais
des
regardez,
fois, ils laissent
un
courriel, un avis négatif et grossier.
Ouais.
Alors, non seulement le signataire de cet avis-là peut être blâmé par les tribunaux et poursuivi, mais Google pourrait l'être aussi pour avoir permis à ce message-là de subsister sur le site d'un commerce ou d'une personne.
Mais regardez-vous ça, les avis Google, vous, quand vous, je ne sais pas, magasinez pour choisir un restaurant où est-ce que vous allez aller manger ce soir?
Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps pour un restaurant sur la rue Maigoire et j'avais checké sur Google, pas les avis directement, j'avais checké l'adresse. Donc, je suis allé sur le site, j'ai cliqué sur Google le nom du restaurant, puis là, j'ai vu apparaître le nom du restaurant avec certaines descriptions. Là, j'ai vu qu'il y avait des avis. Alors oui, je suis allé. Et par hasard, c'est la première fois que je faisais ça. Je suis allé, puis là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du délai, qu'il n'y avait pas assez de services, qu'il manquait de personnel, que c'était long, que la carte des vins n'était pas très garnie. Puis ça ne m'a pas influencé au point de ne pas y aller, mais ça m'a un petit peu donné de l'information. Puis effectivement, c'est exactement ça qui s'est passé. Le délai était très long, puis la carte des vins faisait dur. Mais ça avait été noté sur Google, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se fier là-dessus. Et moi, j'ai un bureau d'avocat, il y a à peu près 250 avis sur Bellemare Avocat. Les gens vont là, puis ils mettent des avis, puis on a 4,8, c'est très bon. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui le sait, puis c'est pas tout le monde qui le fait, mais je sais qu'il y a les gens qui s'occupent de notre site, ici au bureau, nous avaient indiqué que de plus en plus, surtout chez les jeunes, 40 ans et moins, les jeunes vont beaucoup voir les avis pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est un réflexe de plus en plus courant. Alors, c'est sûr que si vous mettez un avis puis vous inventez quelque chose, vous êtes retraçable. Oui, vous pouvez être poursuivi de la même manière que vous pouvez l'être si vous insultez quelqu'un en public, là. Il n'y a pas de différence dans les réseaux sociaux. La norme de faute en diffamation n'est pas moins ou plus élevée. Parce que c'est sur un avis Google ou sur les réseaux sociaux.
Donc, je suis allé sur les avis là, de Bellemare Avocat. Je prends les deux, trois premiers. Vous pouvez compter sur Maître Bellemare pour vous représenter la meilleure façon auprès de la CNSST du Tribunal du Travail. Il va monter un dossier complet, incluant la jurisprudence, blablabla, son esprit de synthèse. Un 5 étoiles pour M. Bellemare. Un autre avis, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Maître Marc Bellemare pour son professionnalisme exceptionnel, son dévouement. Un autre 5 étoiles. C'est bon, ça. Mais comment on sait
on a une bonne cote. On a une bonne cote. Mais c'est sûr que les gens mettent leur avis Et c'est gratuit et ils sont invités à le faire, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas non plus.
Ouais. Mais Maître Bellemare, si je suis insatisfait d'un restaurant puis je le mentionne, comment je peux me faire poursuivre? Là,
non, mais si tu mens, d'abord, il faut que tu sois retraçable. C'est sûr que si tu y vas par un nom déguisé ou qu'on ne peut pas te retracer, ça devient plus compliqué pour te poursuivre parce que si le client va voir un avocat, puis il dit « Hey, ce gars-là, il a mis un avis, il a inventé quelque chose, puis c'est pas vrai, puis c'est faux, puis c'est simplement dans le but de nuire. » Ça dépend si c'est mensonger. Tu as le droit de pas être satisfait. Tu as le droit de le dire. C'est normal, c'est la liberté d'expression,
ouais,
qui est un principe fondamental dans notre société, consacré autant par la Charte québécoise que la Charte fédérale des droits et libertés. Alors, la liberté d'expression fait aucun doute, sauf que tu peux pas l'utiliser dans le but sciemment de nuire ou de discréditer quelqu'un sur une base mensongère ou sur une base de sadisme ou de volonté de détruire. Mais tout est une question de contenu. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi, tu le sais. Hein, surtout toi comme animateur, c'est encore plus vrai. Alors, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Les gens sur les réseaux sociaux, ils sont peut-être portés à se lâcher un peu lousse puis sur les avis Google. Mais... ça dépend aussi jusqu'à quel point c'est intéressant pour le commerçant de relever ça. Parce que si le commerçant décide de prendre une poursuite contre un client qui a détruit sa réputation, ou des fois ça peut devenir une espèce de message qui va faire tache d'huile sur le web, il peut toujours bouger, mais si tu bouges, tu donnes de l'importance aux commentaires négatifs, il devient davantage public, puis des fois tu as peut-être intérêt à laisser passer, puis bon, il n'est pas content, il a le droit. T'sais.
Dans le cas,
la plupart des gens font ça de toute façon.
Ouais, dans le cas que vous m'avez présenté, c'est une avocate de Vancouver qui s'est fait donner un avis de merde, en fait, et elle a décidé, elle, qu'elle allait poursuivre la personne, puis finalement, elle a gagné. Elle a gagné une pièce.
Ouais, c'est un montant symbolique que le juge a donné, mais elle, l'avis négatif, c'était que c'était la pire avocate au monde, ou je sais pas trop. Mais tu sais, c'est pas sérieux. T'sais. Quand même, quelqu'un dit que Bellemare, c'est le pire avocat au monde. Il faut que ça me fasse ça, moi. Il y en a des avocats dans le monde, il y en a plein, il y en a 30 000 au Québec. Là. Alors, faire des comparatifs. Et c'est sûr que si tu as 4.7, 4.8 sur Google, puis tu as un avis comme ça qui vient, ben ça détonne un peu, ça veut dire que le gars est pas mal tout seul de son camp. Alors, regarde, c'est comme ça. Mais les avis Google, il y a aussi des gens qui répondent aux avis Google. Et ça, je trouve que c'est maladroit. Je sais que sur certains sites d'avocats, les avocats répondent. C'est un avis négatif. « Ouais, on vous connaît pas. Vous êtes qui exactement? Puis on a gagné votre cause, puis vous chialez pareil. » Puis ça, je trouve que c'est d'accorder énormément d'importance aux avis Google, d'abord. Ça peut encourager les gens à en rajouter.
Ouais.
Si tu les provoques, ils vont être encore plus méchants,
ben ouais,
plus présents. C'est facile de dire à 7-8 de tes chums, hey, écris puis dis que c'est des pourris, tu sais. Alors ça, c'est, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Il n'y a pas d'abonnement ou d'identification particulière. Tu n'es pas obligé d'avoir vraiment fait affaire avec la personne pour mettre une étoile plutôt que cinq. Alors, il ne faut pas répondre. Moi, à mon avis, c'est pas une bonne idée de répondre aux détracteurs. Si y a un avis qui est mensonger, agressif, criminel, ben, à ce moment-là, tu peux le signaler à Google qui va pouvoir peut-être l'enlever.
Mais
répondre à ça, je trouve que ça donne beaucoup d'importance aux détracteurs, alors qu'on devrait peut-être plus souvent qu'autrement les ignorer.
Mais un juge fait comment pour évaluer les dommages que la personne a obtenus en raison des commentaires négatifs? C'est quelqu'un qui décide de saloper la réputation de quelqu'un, qui écrit, je sais pas moi, un texte qui est mensonger sur cette personne-là, puis là, ben ce post-là est partagé par des milliers de personnes. Et le juge fait comment pour dire, ben ça, c'est une pièce de la personne qui a été partagée? Il fait quoi? Je comprends. Comment ils font pour...
Ben ça, c'est le gros problème de la diffamation. On a des chartes au Québec et au Canada qui disent, ah, le droit à la dignité, le droit à l'honneur, le droit à l'image. Mais dans les faits, les causes de diffamation donnent des résultats très décevants. Moi, je suis souvent consulté par des gens qui me disent, un tel m'a insulté, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je peux faire? Et très souvent, on monte des causes importantes, on fait faire des expertises, on arrive avec des rapports psychologiques, puis on a un jugement de 15 pages qui est très, très, très sévère, puis qui dit ça n'a pas de bon sens, puis cette personne-là a fait ci, pas fait ça. Par contre, il n'y a pas de perte d'emploi, il n'y a pas de perte de maison, Il n'y a pas de perte financière prouvable, c'est juste symbolique. Alors, le juge, au bout de la ligne, va te donner 2000 piastres, tu sais.
OK.
Et puis, tu sais qu'aux petites créances, les causes de diffamation ne sont pas acceptées. Alors, tu es obligé d'aller devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure régulière avec tout ce que ça implique comme procédure, interrogatoire, expertise, toute la lourdeur du système de justice civile. Et ça peut coûter beaucoup plus cher la plupart du temps que ce que tu vas récolter. Alors, c'est pour ça que dans des cas extrêmement graves, une perte d'emploi, une perte d'investissement importante, une perte de réputation qui colle et qui est prouvable, à ce moment-là, il y a des recours en diffamation, ça existe tout le temps. C'est le principe de base, quiconque commet une faute et un dommage à autrui est tenu de le réparer. C'est le principe de base dans le Code civil depuis que le Code civil existe. Mais comme je te dis, les dommages sont assez pauvres. On n'est pas aux États-Unis. Tu sais, quand Mme Daniels poursuit Donald Trump, puis qu'elle a des 5, je sais pas trop, 5, 40, 50 millions, là, ça, c'est les Américains. Au Canada, c'est loin d'être le cas. Et nous autres, on est à l'autre extrémité du spectre. On donne des peanuts pour les cas de diffamation. Alors, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui se lancent là-dedans.
Ouais,
Et les
mais
avocats doivent être prudents aussi.
ouais. Vous nous avez toujours dit aussi de l'importance de monter un bon dossier. Vous ne pouvez pas arriver chez votre avocat avec les mains vides en disant bon ben moi il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là, sur Facebook, là, puis là, ça m'a fait du tort, t'sais, ça fonctionne pas comme ça. Faut qu'il y ait des preuves, t'sais, faut que ce soit des preuves visuelles, du moins un dossier qui est monté avant de se présenter chez l'avocat pour dire voici ce que ça m'a causé. Si c'est une entreprise, puis vous avez une perte financière énorme depuis 3 mois en raison du fait qu'il y a quelqu'un qui arrête pas de vous harceler sur les réseaux sociaux, ben là, c'est pas palpable, t'sais. Il y a trois mois de misère financière au restaurant parce qu'il y a une baisse d'achalandage, parce qu'il y a des commentaires négatifs à votre égard sur les réseaux sociaux. Là, il y a des possibilités d'avoir une cause là.
Oui, absolument. C'est ça. Puis il y a aussi le dommage causé à la personne. Souvent, si elle a consulté un psychologue parce qu'elle a fait une petite dépression ou une grosse dépression, de la misère à s'en sortir, trouble de sommeil, trouble d'appétit, trouble de contacts sociaux, isolement. Ça peut aider à convaincre le juge que la personne a véritablement été blessée. Parce qu'il ne suffit pas de prouver que la personne a commis une faute. La faute peut être dénoncée par le juge. Mais au bout de la ligne, il y a un dommage, un montant d'argent qui doit être accordé à la personne. Puis quand vient le temps de fixer le montant d'argent, mais c'est là que le bât blesse souvent, si tu n'as pas consulté de psychologue, si tu n'as pas prouvé que tu as eu vraiment de la peine ou que tu as été altéré dans ton comportement, que tu n'as pas manqué de travail, tu vas avoir des pinottes, quelques mille piastres, puis un beau jugement, bien écrit, bien motivé, mais des sommes très, très basses au bout de la ligne. Et voilà, c'est ça le problème des causes de diffamation. En tout cas, c'est mon expérience de 45 ans qui m'amène à dire ça ce matin.
Maître Bellemare, on parle d'un tout autre sujet. On parle de l'octroi de primes et de boni. Est-ce que c'est un droit ou un jeu?
Non, les bonis, là, c'est le boss qui est de bonne humeur. Il a fait un bon profit l'année passée. Et c'est mon ami Bernard Clich, qui est avocat, qui a écrit ça dans le Journal de Québec
Oui.
la semaine dernière. Un boni, là, c'est le patron qui dit, j'ai fait de l'argent et je décide de favoriser mes employés en leur donnant un montant d'argent à la fin de l'année. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si tu as droit au boni ou pas. Alors, la question, c'est non. Le boss a le droit d'avantager qui il veut. Et la plupart du temps, ça va être basé sur la performance de l'entreprise qui a fait des profits cette année-là. Alors, il peut répartir ça comme il veut. Et il peut répartir ça en fonction aussi du degré de performance de la personne. Alors, si toi, tu as été meilleur que d'autres, tu as fait plus de ventes, tu étais en vente d'automobile, tu es dans la vente d'ordinateur, tu as fait plus de ventes, tu as un bon comportement, tu fais un bon travail d'équipe, à ce moment-là, tu peux avoir un boni. Mais l'employeur n'est pas obligé de le donner à tout le monde. Il y a un large pouvoir discrétionnaire et il peut arriver que l'employeur décide simplement d'avantager quelques employés plutôt que l'ensemble des employés. Et c'est sûr que s'il y a de la discrimination basée sur la race, sur la langue, sur le sexe, sur l'orientation sexuelle, mais là, ça pourrait faire l'objet de certaines attaques en vertu des chartes. Mais sinon, si c'est basé sur la performance de chacun, ça relève du droit de gérance de l'employeur et non pas et non pas de chacun des employés. Et c'est sûr que ça peut amener une certaine zizanie dans le personnel aussi, il faut faire attention. Quand tu es patron, puis que tu décides d'avantager quelqu'un et que ça se sait, et que tu n'avantages pas les autres, ça peut avoir un effet à la baisse aussi sur la performance de certains employés. Donc, faut user de ça de façon intelligente, mais ce n'est pas un droit garanti. Ce n'est pas associé au salaire comme tel. C'est associé à la performance et à l'importance que tu représentes dans l'entreprise comme telle.
OK, mais ça dépend aussi de quel type d'employé on est. Est-ce qu'on est travailleur autonome? Est-ce qu'on est travailleur à compte contractuel? Est-ce qu'on est travailleur temps plein pour l'employeur? Moi, j'ai travaillé pour divers employeurs, puis il y en a un pour qui j'étais employé, mais qu'année après année, il me faisait signer un contrat de travail avec des bonus qui étaient inclus dans le contrat de travail, donc des objectifs à atteindre. Puis si les objectifs étaient atteints, il y avait des montants d'argent qui étaient octroyés là, de façon supplémentaire. Ça, il est obligé de vous les verser. Si vous atteignez vos objectifs, il est obligé de vous les verser. C'est dans le
Oui,
contrat.
c'est ça. Mais souvent, ça va faire l'objet, les bonus ou les bonis, les primes, ça va faire l'objet d'une directive à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que tu vas établir, par exemple, qu'à partir de tel indice de performance, tu augmentes ton chiffre d'affaires de tel pourcent, tu as droit à un boni, tu as droit à ci, tu as droit à ça. Mais c'est sûr que plus c'est précisé dans un contrat ou dans une directive publique connue des employés, plus ça devient contraignant pour le boss aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs employeurs qui n'auront pas ce genre de directive-là, pour pas que ça soit intégré dans les conditions de travail puis que ça puisse leur être opposable. Parce que s'il y a une directive écrite et que tu as atteint tes performances puis que l'employeur te le donne pas, là, tu pourrais l'exiger en disant, ben, j'ai satisfait à une condition de travail. J'ai le droit d'avoir ce montant-là, mon associé l'a eu, j'ai le droit de l'avoir aussi. Alors, ça pourrait contraindre l'employeur. Le fait de ne pas avoir de directive écrite précise donne une plus grande marge de manœuvre à l'employeur, mais comme je te disais tantôt, cette marge de manœuvre-là doit être utilisée de façon intelligente pour ne pas provoquer de la jalousie ou de la zizanie au sein de l'entreprise, ce qui peut être dévastateur à long terme.
Et puis ça peut être assez délicat, là. Exemple, quand il s'agit de votre ancien employeur, mais qui vous doit encore des bonus, qu'est-ce qu'on met sur le CV, tu sais? Quand on réclame, on est en litige avec l'ancien employeur pour des bonus ou des primes qui n'ont pas été versées, ça doit être assez
Ouais.
complexe. Mais jamais arrivé, là, mais qu'un employeur me doive de l'argent, ça doit être assez complexe de mettre cet employeur-là sur votre CV, sachant que il va être votre référence, là.
C'est ça, mais c'est ça. Mais il y a des cas, effectivement, où tu as quitté l'entreprise, je ne sais pas, moi, à début 2024, en janvier, il t'apprend au mois de mars que l'employeur a donné des bonis à tous ses employés pour une bonne performance d'année 2023, mais toi, tu as quitté juste au début de l'année suivante, de sorte que tu n'as pas vu les effets financiers de la dernière année. Est-ce que tu peux l'exiger? Pas nécessairement. Encore là, si ce n'est pas prévu dans une directive interne, que même les employés qui ont quitté l'entreprise y ont droit, l'employeur pourrait dire, ben non, ça s'adresse simplement aux employés qui sont encore à mon emploi aujourd'hui. Je te dis pas que l'employé pourrait pas le réclamer puis faire une plainte à la commission des normes de la santé et sécurité du travail, qui est l'ancienne commission des normes du travail qui a changé de nom pour la CNSST. Il pourrait le faire en disant qu'il y a eu un traitement discriminatoire puis qu'il réclame du salaire. Mais à mon avis, ça réussirait pas parce que l'employeur, comme je te dis, les bonis, c'est pas du salaire, c'est un privilège, c'est un cadeau. Et un cadeau, ben, on peut pas en exiger l'attribution, à moins que dans un document précis, ce cadeau-là nous soit payable, indépendamment du fait qu'on soit encore à l'emploi ou non dans
Je vous rappelle que ce soir, on est en compagnie de Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca, des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, on va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca qui est avec nous. Maître Bellemare, ça va toujours bien?
Très bien.
J'ai
Ben oui, on lâche pas.
des chiffres à vous donner, Maître Bellemare, concernant le fameux gouvernement du Québec qu'on a actuellement. C'est des chiffres qui avaient été donnés en 2022 par l'excellent journaliste Thomas Gerbais de Radio-Canada. Il parlait des données du ministère de la Santé qui avaient été publiées lors de l'étude des crédits. En 2022, il y avait 158 915 Québécois qui étaient en attente d'une chirurgie. Est-ce que depuis l'arrivée de Christian Dubé, ça s'est amélioré, oui ou non?
Non, c'est pire. On doit être rendu à 175 000.
Ce serait pire selon vous. Donc, on partirait de 105. On va faire des chiffres ronds, ça va être moins compliqué. 159 000 Québécois en attente d'une chirurgie. Vous, vous dites que ça l'a augmenté. Effectivement, ça l'a augmenté. On est rendu à 171 000 Québécois qui sont en attente d'une chirurgie. Donc, quand même que la CAQ dit « Non, non, en santé, ça va beaucoup mieux », on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai. Autre chiffre intéressant de Thomas Gerbet, qui date de 2022, 41 346 Québécois qui étaient en attente de soutien à domicile. Aujourd'hui, est-ce que ça s'est amélioré ou ça l'a empiré? On est rendu à 55 000 Québécois qui sont en attente de soutien à domicile.
L'accès... Là, on va nous dire qu'il y a eu une grève. À cause de la grève, ça a sûrement alourdi le système parce qu'il y avait moins de personnel. On va nous dire aussi que les gens vieillissent plus vite que prévu. Ils ne meurent plus, il y a plus de monde encore malade ou en attente de chirurgie ou en attente de soins à domicile. On va toujours nous dire ça, mais écoute, le réseau de santé, depuis 40 ans, ça a toujours été au cœur des campagnes électorales, puis ça n'a jamais marché pour aucun gouvernement, puis écoute, c'est un monstre incontrôlable.
L'accessibilité à la santé mentale pour avoir de l'aide, c'était autour de 7 mois dans le public en 2022. Aujourd'hui, c'est jusqu'à un an d'attente pour avoir un psychologue. Et j'ai d'autres chiffres intéressants en terminant. 3784 Québécois en 2022 qui étaient en attente d'une place en CHSLD. On est rendu à 4600 Québécois en attente d'une place en CHSLD. Donc, les chiffres grossissent, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser ou peut-être nous laisser croire quand on lit le journal au quotidien. Là, on a tout le temps l'impression que Christian Dubé a amené telle affaire. Ça semble aller mieux. Mais finalement, les chiffres qu'on a actuellement, c'est que ça fait juste empirer année après année. Mais c'est pas grave, faut garder espoir.
Oui, on va... En tout cas, on n'a pas trop besoin de services de santé, puis on est bien chanceux, parce que les gens qui attendent après ça pour avoir un minimum de qualité de vie, je les plains.
Ouais, faut se tenir.
Il n'y a pas d'espoir d'amélioration à l'horizon, à mon avis.
Ouais. Faut se tenir loin du système de santé le plus possible. Faut prendre nos petites marches, faut dormir bien en masse, faut bien manger. Prochain sujet, Maître Bellemare, une éducatrice qui est accusée du meurtre d'une fillette dans une garderie de Québec. Ça a fait fortement réagir. On parle d'une fillette de 14 mois qui est morte dans une garderie qui était en milieu familial. C'est une garderie qui était située dans le secteur de Beauport et selon les enquêteurs, elle aurait été effectivement victime d'un meurtre.
Oui, Gwynnett Mugwaka qui a comparu mercredi dernier.
Gwynnett Kiwangala Mugwaka.
Oui, pour une accusation de meurtre au second degré, donc meurtre non prémédité. Ça veut dire qu'il y aurait eu probablement des gestes de violence qui n'auraient pas été destinés sciemment à causer le décès, mais qui auraient pu causer le décès et des gestes là, malheureux dont cette dame-là aurait eu conscience au moment où ils ont été posés. Au début, on l'avait accusé de voie de fait. C'est quand même pas rien. Voie de fait, c'est un bébé. On parle du même enfant. On a pensé au début que c'était des voies de fait, mais des voies de fait, ça implique un geste agressif sur une personne, un geste qui est posé physiquement, avec une intention de poser le geste. C'est pas une erreur là, que tu laisses le bébé, puis le bébé décide de rouler, puis il tombe à terre, là, une erreur de bonne foi, même si ça aussi, c'est pas plus pardonnable, à mon avis. L'erreur, il n'y a pas de place à l'erreur dans une garderie avec un enfant de 14 mois, mais au début, c'était une voie de fait, puis là, j'ai l'impression que les preuves de violence ont été assez importantes, assez sérieuses pour qu'on parle d'un meurtre au second degré. Alors, ça m'a fait penser à un autre cas qui s'est produit à Beauport, Sainte-Brigitte de Laval, il y a quelques années, où j'avais représenté les parents là, dans le dossier où la dame a été, je pense que c'est Mme Jonf, là, qui a été condamnée à quelques années de prison depuis. Alors, c'est pas facile d'obtenir des condamnations en droit criminel à cause de la présomption d'innocence puis du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. Mais quand on a un corps de bébé qui est mutilé et qui présente des traces de violence évidentes, le bébé ne se défend pas. C'est souvent ça qui va être au cœur du procès. Un expert qui va venir dire ou des experts qui vont venir dire que ces traces-là sont forcément des traces de violence qui originent de l'intervention d'un adulte. Un autre qui va venir dire, ben, c'est peut-être un autre diagnostic ou une autre raison. La plupart du temps, c'est comme ça. Ça m'étonnerait qu'elle puisse être coupable, mais en tout cas, on verra bien au fil des années. Mais c'est tellement malheureux. Puis je pense aux enfants. Moi, je me souviens quand mes enfants étaient plus jeunes, trouver une gardienne, c'est un défi. C'est pas juste une gardienne dans un CPE ou dans un service de garde privé. C'est aussi des gardiennes que tu vas chercher pour quand tu vas au cinéma le vendredi soir là, pour venir s'occuper des enfants. Ça devient difficile, mais je serais pas là, je serais pas prêt à dire qu'il y a plus de sévices sur les enfants ou qu'il y a plus d'assassinats d'enfants ou de meurtres d'enfants dans les garderies qu'il y en avait, probablement qu'il y en a toujours eu là. Mais aujourd'hui, avec la médiatisation, ça fait peur tout le temps. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui peut bien encourager une dame quand même assez jeune, dans la vingtaine, avec son conjoint qui lui aussi a été accusé un autre niveau, mais conjoint qui a été accusé, qui est âgé de 30 ans. Alors, ça fait toujours peur parce que tu te dis, mais ça aurait pu être mon petit-fils ou ma petite-fille qui aurait été là. Tu sais, comment tu veux deviner que il va y avoir un décès, mais ça a dû jouer dur, là, parce que pour un enfant de 14 ans, c'est quand même, là, généralement, il peut, 14, pas 14
14
ans,
mois.
14 mois, il peut avoir, tu sais, 15 livres, entre 15 et 25 livres, dépendant du gabarit. Mais c'est un enfant d'habitude qui marche, qui s'exprime un peu. Tu parles pas d'un bébé de 2 mois, là,
Non,
tu
non,
parles d'un bébé qui est ambulant, là.
c'est ça. Ça a probablement brassé un peu. Puis, tu sais, confidence, là, quand j'étais un peu plus jeune, quand mes gars sont venus au monde, étaient dans les médias, je lis régulièrement ce type de choses-là qui se passent, des gardiennes ou des gens qui étaient aux alentours des garderies, qui étaient mal intentionnés, qui n'étaient pas là pour le bien de nos enfants. Je peux vous dire que quand est venu le choix de choisir une garderie en milieu familial pour nous au départ, pour mon premier, Joshua, j'étais extrêmement craintif et extrêmement anxieux lorsque je rentrais dans les maisons et les garderies. J'essayais de voir s'il n'y avait pas des signaux peut-être qui pourraient me dire, hey, laisse pas ton enfant à cet endroit-là. Ça nous reste dans la tête, puis on a toujours l'impression qu'on est entouré de gens qui sont bien intentionnés, mais malheureusement, il y a des gens comme ça, comme cette dame-là et son conjoint qui peuvent péter des coches à la moindre petite affaire envers nos tout-petits, puis ça, ben, ça peut être fatal.
Oui, c'est ça. Mais on va suivre ça, mais c'est moi ce qui me fait ce qui évidemment la justice est publique, puis ces causes-là vont être très, très suivies au plan médiatique. Mais c'est sûr qu'il y a je connais beaucoup de jeunes couples qui ont des bébés, des enfants, puis qui font des vérifications. Souvent, les gardiennes, tout ça, on va trouver ça sur les réseaux sociaux, on ne sait pas trop le passé de chaque personne. Les gens se présentent toujours de façon très conviviale, très souriante, mais en même temps, ça peut être des monstres à travers ça. Puis qu'est-ce qu'il me dit, moi, qui n'ai pas été en prison il y a 5 ans pour violence auprès des enfants ou
Ouais.
agressivité ou voie de fait?
Ça, il y a
On n'a pas tous
moyen.
ces bilans-là,
Non.
hein? On n'a pas
Mais
tout le détail de la personne, puis aujourd'hui, on ne sait jamais à qui on a affaire.
c'est ça. Mais il y a moyen de faire des recherches là aujourd'hui. Puis ça coûte gratis, comme on dit. On peut aller au Palais de justice de Québec, puis il y a des ordinateurs qui sont là, présents pour les citoyens. Si vous avez le nom de la personne ainsi que sa date de naissance, vous rentrez ça dans l'ordinateur et vous allez avoir le pedigree de la personne. Si cette personne-là a commis des gestes qui sont répréhensibles, qu'elle a déjà été condamnée, vous allez le voir très rapidement. Là. Moi, je vois pas là tous les ans, Maître Bellemare, mais dans le cas de mes enfants, pour ce qui est des gardiennes et tout ça, là, que je pouvais peut-être avoir les informations, ben j'allais là, je rentrais le nom de la gardienne, je rentrais sa date de naissance, puis s'il y avait de quoi, ben on me le disait, s'il y avait rien, ben je me disais, OK, ben c'est correct, t'sais.
Mais comment tu fais pour avoir les dates de naissance? C'est
Tu
pas
leur
toujours
demandes?
facile, là.
Ah ouais, ben c'est des vérifications d'antécédents judiciaires. Moi, je le fais pas pour ma vie personnelle, là, mais si c'était pour, quand c'était pour mes enfants, je disais, ben j'ai besoin de votre nom puis votre date de naissance, c'est pour des vérifications d'antécédents judiciaires. Puis ben souvent, les gens étaient très rapides à me donner leur date de naissance puis leur nom complet, là.
Ouais.
Quand ils n'ont rien
Ah
à se
oui.
reprocher, ils
Une
peuvent.
chose à vérifier, tout à fait.
Ben
Ouais, c'est
oui.
une bonne idée. Alors, nos auditeurs vont être mieux avisés dorénavant.
Exact. Puis ça coûte gratis. Puis même, vous pouvez le faire pour votre conjoint, votre conjointe. Si vous soupçonnez votre conjointe de ne pas être droite-droite, ben vous pouvez aller au Palais de justice de Québec. Vous allez où les ordinateurs que je vous parle. Je pense que c'est au deuxième ou au troisième étage de mémoire. Je sais pas si ça a changé. Mais vous rentrez le nom, puis la date de naissance. Puis c'est très rapide. Ça prend 15 secondes. Maître Bellemare, j'ai ri quand vous m'avez envoyé ça. Vous m'avez envoyé un article de la presse où on parle de l'Europe, plus précisément en France. On nous dit que l'Assemblée nationale vote un texte contre la discrimination capillaire.
Oui, ça, c'est les cheveux, ça, c'est garde. Les femmes noires
Oh!
contraintes de lisser leurs cheveux, moquerie contre les roux ou contre les blonds. J'ajouterais peut-être moquerie contre les chauves. L'Assemblée nationale en France a voté la semaine dernière une proposition de loi contre la discrimination capillaire, malgré les réserves sur l'utilité d'une telle initiative. Moi, je trouve ça parfaitement niaiseux,
Ben, moi aussi.
mais de toute façon, ici au Québec, puis au Canada, avec nos chartes sur, l'image et la réputation et la dignité, on peut peut-être couvrir ça. C'est sûr que si tu refuses d'embaucher quelqu'un parce qu'il est chauve, là, ça se pourrait que tu fasses l'objet de certaines attaques, mais en France, on a décidé de le faire de façon très, très, directe. C'est un député de l'île de Guadeloupe, Olivier Servat, qui est à l'origine de cette motion qui a été adoptée. Et ce qui m'a surpris, c'est que on a calqué cette proposition-là sur une loi. Il semble qu'aux États-Unis, il y ait ce genre de loi-là en Californie. Alors, ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais que les Français étaient les premiers à le faire. Mais on voit bien qu'on est dans le woke à peu près, là. On est rendu dans la discrimination capillaire. Alors, la proposition, c'est ça, avec l'objectif d'empêcher les employeurs de contraindre leurs salariés à lisser leur coupe afro ou à cacher leur tresse ou leur dreadlock. Mais moi, je sais pas, ça se pourrait m'a donné, si j'engage quelqu'un, l'apparence physique, c'est quand même important aussi, là. Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir certaines hésitations, je sais pas, les tatous, la couleur des cheveux, tu sais, t'engages-tu quelqu'un, les cheveux roses, les cheveux verts pour être préposé à l'accueil dans un commerce, par exemple. La question se pose. Ça se pourrait que ce soit pas à la hauteur des exigences de l'employeur, mais ici, je sais pas, on parle pas de la couleur des cheveux, on parle des tresses surtout, qu'on vise évidemment les afro-françaises, là. On dit que le texte est inspiré de législation en vigueur dans une partie des États-Unis, notamment le Crown Act promulgué en 2019 en Californie contre la discrimination capillaire. Alors, est-ce que tu penses que tu fais l'objet de discrimination capillaire, Yann?
Non, ben non, moi, c'est, ben non, pas moi, là, mais ce que je trouve particulier, c'est pour des raisons de sécurité, la confession sikh, là, les sikhs ont des turbans sur la tête, et si ces gars-là travaillent dans la construction, ils doivent avoir un casque de construction, puis pour certains, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ont les cheveux longs, puis en plus, ils ont leur bandeau autour de ces cheveux-là, puis ils doivent mettre le casque. Je trouve ça très particulier, puis je me dis, en tant qu'employeur, tu sais, j'hésiterais-tu à avoir un gars qui est sick, qui met son casque de travers. T'sais, moi, je paye des primes là, à la CNSST là, pour être
Ah
sûr et
oui.
certain que mes employés soient corrects. Puis là, ben, j'ai un travailleur qui est sick, c'est grand bien lui fasse, mais son casque est tout de travers, avec son bandeau tout de travers, puis ses cheveux en dessous. Je veux dire, ce qui représente un danger supplémentaire pour lui-même si je le fais rentrer dans la construction pour mon entreprise. T'sais.
Ouais, puis ça me fait penser aussi à certaines ligues de soccer. Je pense qu'il y a quelques années au Québec qui avaient interdit à des jeunes de jouer avec des tresses ou des cheveux longs ou, tu sais, pour éviter de s'accrocher puis de peut-être subir des dommages. Je sais pas où ça s'est retrouvé, mais ceci étant dit, Yannick, je pense que nos chartes au Québec sont suffisamment sévères et suffisamment précises pour couvrir ce genre de discrimination-là dans l'hypothèse où ça se présentait. Mais je connais pas de jurisprudence ou de jugement de cour qui sont allés dans ce sens-là, mais il semble qu'en France, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'afro-français, Américains qui se retrouvent en France, d'Africains, à cause du passé colonial de la France, qui a toujours, comme tous les empires, comme les Portugais, comme les Anglais, comme les Hollandais, qui a des politiques pour rapatrier chez eux éventuellement là, des citoyens qui viennent d'anciennes colonies. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un petit peu plus de cas comme ça, là, de discrimination basée sur ce fait-là. Mais voilà, alors ça existe quand même dans deux pays dans le monde. Ça existe aux États-Unis, version Californie, puis ça existe en France aussi.
Maître Bellemare, dans 50 ans, quand vos arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants vont dire arrière-grand-père, t'étais où quand il y avait eu l'éclipse? Vous pourrez dire, j'étais avec Marceau à la radio au 102-1 Boulevard.
C'est là qu'on a fêté ça.
Ouais, là qu'on a fait ça. Ça a été un plaisir. Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, quand c'est compliqué, on appelle chez Bellemare Avocat, bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, on se rejase lundi prochain.
Merci, bonne semaine tout le monde.
Bye bye, bonne semaine. On se laisse là-dessus. Ouais. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de boulevard. Et demain, 11h, je serai avec vous pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye.